Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, on peut estimer que la conscience morale d'un petit enfant a vraiment émergé lorsqu'il grandit, le jour où il est capable d'accomplir une bonne action indépendamment du regard de ses parents. Je veux dire qu'il ne le fait pas seulement pour faire plaisir ou dans l'espoir d'être mieux considéré, mais parce que c'est bien en soi. Et ce qui facilite le franchissement de cette étape, c'est lorsque l'enfant comprend que la multiplication des bonnes actions, dont il est légitimement fier, certes le rend plus aimable, mais ne le rendra pas plus aimé. Et loin de le décourager, cette prise de conscience l'inspirera davantage. Il ne s'agira plus d'acheter l'amour, mais de se montrer le plus digne possible d'un amour acquis, dont il est certain. Mais voyez, analogiquement, cette étape de la petite enfance représente pour chacun d'entre nous comme un défi pour la vie spirituelle. Je crois que le mystère de la transfiguration nous permet de l'approcher lorsque nous le méditons comme chaque année au deuxième dimanche de Carême. Pour ce faire, je vous propose de regarder ce que cet événement pourrait représenter dans la vie du Christ et ensuite ce qu'il représente dans la nôtre. D'abord, dans la vie de Jésus, la transfiguration, elle est assurément associée à son entrée dans la Passion. Il parlait de son départ, explique l'évangéliste, de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Son départ, littéralement, sa Pâque, son passage, c'est-à-dire la mort et la passion et la mort, qui d'ailleurs il annonce juste après. Et voyez la proximité de cet épisode lumineux de la transfiguration, la proximité avec la passion et la mort, inspire parfois une interprétation que je trouve un peu courte, que je résumerai ainsi. Courage Jésus, tu vas bientôt souffrir énormément, accorde-toi une petite pause avant de redescendre dans la vallée des larmes. Ainsi la transfiguration, disent un grand nombre de commentaires, serait une petite fenêtre sur le ciel, ouverte l'espace d'un instant béni, un petit bain de lumière accordé par le Père avant qu'on éteigne la lumière. Et cette façon de présenter les choses nous convient bien. L'évangile du deuxième dimanche de Carême, un petit aperçu de Pâques pour nous motiver. Mais peut-on, frères et sœurs, limiter la transfiguration du Christ à un simple encouragement paternel? Ça va être dur, mon fils, mais vu la gloire qui t'attend, n'hésite pas. Au moment où Jésus gravit le mont Tabor, où en sommes-nous? Depuis 3 ans, il n'a cessé de révéler l'amour du Père diffusé par l'Esprit à travers sa propre personne. Il a acquis une profonde connaissance de son identité divine, et cette connaissance qu'il a acquise, on peut très bien la concevoir de façon progressive. Je veux dire qu'il gagne en intensité au cours du temps, comme d'ailleurs l'épisode de la sortie de son enfance lorsqu'il avait 12 ans nous permet de le comprendre. Jésus n'a jamais cessé de comprendre plus profondément le mystère de sa propre identité. Et à ce titre, il me semble légitime d'émettre l'hypothèse selon laquelle la rencontre de la transfiguration constitue pour Jésus une forme d'achèvement, le terme d'un approfondissement intime de son identité dans la circonscription de son humanité. C'est sûr que la communion des trois personnes divines, elle est invariable, elle est totale, elle est infinie. Mais la compréhension de ce mystère, de cet amour absolu dans la limitation d'une humanité particulière, celle de Jésus de Nazareth, peut admettre une loi de croissance, d'intensification progressive, car Jésus est bien un homme Et en affirmant qu'il mûrit jour après jour, nous ne faisons que relever un trait caractéristique de l'humanité. Aujourd'hui, à ce moment-là, c'est un vigoureux trentenaire qui gravit la montagne, et la bénédiction qu'il y reçoit montre que le sommet qu'il atteint n'est pas tant physique que psychologique. Dès lors, on pourrait dire qu'il se pourrait, jusqu'ici, que jamais le vrai Dieu et le vrai homme ne fût parvenu à ce degré de conscience d'être le Fils unique aimé du Père. Et pourquoi cet événement est-il rendu nécessaire ? Pourquoi plutôt est-il nécessaire que nous en ayons connaissance, que nous en soyons rendus contemporains par le récit de l'Évangile ? Alors que cela le regarde lui dans son rapport avec le Père et dans la communion des saints, eh bien je crois que c'est pour que sa descente imminente dans la vallée de larmes soit sans ambiguïté, pour que nous comprenions bien le sens de son engagement dans la passion. En cet instant, la manifestation de l'amour du Père et du Fils atteint un tel degré d'intensité que nous pouvons alors d'emblée chasser l'idée tordue, mais si prégnante dans la conscience religieuse universelle, que cette passion, cette immense épreuve qui l'attend, l'élèvera encore plus dans l'amour de Dieu. Je veux dire par là que la transfiguration manifeste de façon définitive et suffisante, irréversible, pour que nous ne comprenions pas de travers le sens de la passion et de la mort, que ce n'est pas pour plaire davantage au Père que Jésus descend souffrir. Idée affreuse et fausse. Ce n'est pas pour être mieux aimé ou plus aimé. Ce n'est pas pour cela qu'on se sacrifie. Ce n'est pas pour cela qu'on donne et qu'on se donne. Aimer, Jésus l'est absolument. Et cet entretien mystérieux achève de lui faire découvrir et de nous en convaincre dans le même instant. Nous devons comprendre que Jésus ne descendra pas dans notre folie pour prouver quelque chose au Père, obtenir je ne sais quelle faveur. Son ministère, on pourrait d'ailleurs dire qu'il pourrait s'arrêter sur ses hauteurs. Il ne serait pas moins celui qui s'entend désigner par le Père comme le Fils bien-aimé. Ce n'est pas la suite qui le confirme, c'est déjà vrai en cet instant. Si Jésus s'apprête à descendre, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Voilà la terrible et désarmante vérité que nous devons accueillir. Chers amis, maintenant venons-en à nous, justement. Pour nous, le deuxième dimanche de carême, non plus, n'est pas un spot publicitaire destiné à nous encourager à la conversion dans le sens où nos pénitences qui nous associent à la passion et la mort de Jésus nous rendraient bientôt plus dignes d'intérêt aux yeux de Dieu. Dieu ne nous aime pas moins lorsque nous chutons. Dieu ne nous aime pas plus lorsque nous accomplissons le bien. Car Dieu nous aime absolument. La vérité, c'est que cette parole du Père, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, qui a toute ma faveur, dit saint Matthieu, le bien-aimé, dit saint Marc, est à entendre au sens le plus achevé, absolu, invariable pour chacun d'entre nous à travers le Christ. » Les bonnes actions ne font pas que nous sommes plus aimés de Dieu. Dire cela serait vouloir ajouter à l'infini et rentrer dans un marchandage. Attention, on peut faire plaisir à Dieu. On peut faire sa joie davantage. Cela, oui, mais être plus aimé de lui, non. La déclaration d'amour du Père que la transfiguration représente à l'égard du Fils et de tous ses disciples à travers lui nous oblige à dépasser un stade infantile de notre foi, celui qu'on trouve dans nombre d'autres religions humaines ou dans les premiers stades de la première alliance, comme en témoignent les offrandes religieuses d'Abraham dans la première lecture, où il s'agit d'obtenir des faveurs divines, de se rendre agréable aux divinités, de changer leurs sentiments à notre égard. Or, ce genre d'idée peut subsister avec un bon vernis chrétien, on peut en rester là, faire le bien par crainte de déplaire ou en désirant d'être plus aimé de Dieu. La révélation fait pourtant apparaître le mouvement contraire. Il faut le saisir. Toute entreprise de conversion, comme celle du carême, ne doit pas être menée en vue d'être plus aimé, mais à cause du grand amour dont nous sommes aimés. Et à bien y réfléchir. Cette perspective, elle est bien plus exigeante que la première. Le christianisme, révélation divine, est plus ambitieux que toutes les religions humaines marquées par l'esprit du monde, selon lequel il est plus satisfaisant d'être aimé à la mesure de notre investissement que de se sentir devancé, pressé par un amour bouleversant. Chers amis, c'est la formule magnifique et paradoxale du cardinal Journet que je vous ai cité déjà de nombreuses fois, mais j'aime tant la méditer. De Dieu, craignons davantage sa miséricorde que sa justice. De Dieu, craignons davantage sa miséricorde, son amour que sa justice. Si le carême est assurément un entraînement finalisé par l'espérance de la résurrection, par la victoire de Pâques, son motif doit demeurer radicalement cet amour initial. Vous voyez, la transfiguration, ce n'est pas une petite parenthèse promotionnelle, c'est la confirmation de toute la révélation à travers l'humanité du Fils de Dieu, de cet amour inconditionnel du Père pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, l'intensification de notre vie de prière, le combat lucide mené contre nos dépendances, tous nos efforts de charité doivent être accompagnés avant toute chose de ce sentiment, que dis-je, de cette conviction d'être terriblement aimé. Et se reconnaître enfant bien-aimé du Père, parfois ça prend toute une vie. Les petits, les enfants, ceux qui ont un cœur de pauvre, savent le comprendre mieux que personne. Pour eux, le Tabor n'est pas une expérience exceptionnelle, inaccessible. C'est un lieu spirituel dont ils conservent, qu'ils ont déjà visité, et dont ils conservent précieusement les coordonnées, qu'ils savent visiter sans cesse en esprit, qu'ils ne quittent jamais comme un précieux talisman, une bénédiction qu'ils savent acquise et dans laquelle se résume toute leur foi, toute leur confiance. Une telle vérité, si essentielle, ne peut se graver que dans un cœur pur. Et quel que soit l'état d'une autre, il n'est jamais trop tard. Le détour par la montagne du Tabor n'est pas une drôle d'idée. C'est en fait l'ascension spirituelle, l'élévation de l'âme que ce temps béni du carême nous invite à entreprendre chaque jour, si nous voulons en tout cas que Pâques marque vraiment le franchissement d'une étape cette année. Alors, chers amis, risquons-nous à prendre conscience de l'amour infini dont nous sommes aimés, et peut-être alors que le premier pas de notre conversion, qui est sans doute le plus décisif, sera accompli. Amen.